Vous êtes sur RTL. Jusqu'à 10h sur RTL, nous voilà bien avec Flavie Flamand.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous espère en forme pour ce dernier week-end de mai. Il fait beau, les oiseaux chantent, nous reprenons petit à petit le cours de nos vies et nous voilà bien garde sa mission, à savoir vous faciliter la vie, le quotidien. De 9h15 à 10h, comme chaque samedi matin, nous partageons avec vous plein d'infos, des astuces, des conseils, des recettes. Alors à vos stylos, à vos carnets, l'émission commence maintenant. Nous parlions la semaine dernière du boom des achats sur Internet. Le paiement en ligne peut faire peur à certains. Alors, quelles sont les précautions à prendre pour taper son numéro de carte bancaire en toute sécurité? Daniel Ishbia, écrivain et journaliste spécialiste des nouvelles technologies, vous dévoilera ses bons conseils. On parle souvent de l'huile d'olive comme de la meilleure des huiles. Alors, à tort ou à raison, 60 millions de consommateurs ont testé différents produits de différentes marques. Patricia Chiropoulos, journaliste au magazine, va nous faire part des résultats. Et attention, je peux déjà vous le dire, vous allez être surpris. Le soleil brille sur la France, l'occasion idéale pour faire un pique-nique en famille, entre amis ou entre voisins. Sonia Esgulian, cuisinière, auteure et journaliste, va vous donner envie de déjeuner sur l'herbe ce midi, mais tout habillée et en respectant les distances de sécurité, bien sûr. Daniel Ishbia, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, Daniel. Vous êtes écrivain et journaliste spécialiste des nouvelles technologies. Vous êtes auteur d'un livre, Le Guide d'autodéfense sur Internet aux éditions First. Il y a combien d'internautes, d'ailleurs, français qui font des achats en ligne?
Moi, les chiffres que j'ai, ils datent de 2018. Il y avait déjà 85% d'internautes en France qui étaient prêts à faire des achats en ligne. Et ce qui est sûr, c'est qu'avec le confinement, il est très probable que ce chiffre a explosé.
Voilà. Quels sont les différents moyens de paiement possibles sur Internet?
Il y en a beaucoup. Donc, je pense qu'on va s'attarder sur les quatre principaux, peut-être.
Oui,
sachant, sachant qu'il y en a... Bon, bien sûr, le premier, tout le monde le connaît, c'est sa carte bancaire.
Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a PayPal.
Il y a PayPal, oui. PayPal, c'est formidable parce que ça fait un intermédiaire entre vous et entre vous-même, et le site marchand et la banque. Ça, c'est un peu un intermédiaire entre les deux. Et il y a une protection des achats qui est fabuleuse. Je l'ai expérimenté plusieurs fois. PayPal, par défaut, donne raison aux clients. Donc, si vous avez pratiquement toutes les chances de vous faire rembourser si vous n'êtes pas content, même si le produit n'est pas conforme à ce que vous avez voulu acheter.
D'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre?
Si vous ne voulez pas donner votre carte bancaire en ligne, il y a deux solutions simples que je vais vous donner. Il y a la PaySafe Card, c'est-à-dire c'est une sorte de ticket que vous avez dans un tabac, vous donnez par exemple 100 euros et vous avez un code, vous pouvez dépenser vos 100 euros avec. Votre carte bleue ne sera pas... Votre compte bancaire ne sera pas impacté. Personne ne pourra avoir le code de votre carte bleue. Et puis, il y a la carte bancaire prépayée comme nickel. Vous allez dans un tabac, vous ouvrez un compte et en quelques minutes et vous pouvez alimenter ce compte. Pareil, vous faites vos achats avec. Votre carte principale ne sera pas impactée. Ça peut être plusieurs solutions. Il y en a d'autres.
D'accord. Alors, ce que je comprends, c'est que avec la carte bancaire PayPal, c'est quand même l'idéal. Hein, on l'aura bien compris. En tout cas, c'est là qu'on est le plus sécurisé. Et si on ne veut pas effectivement qu'il y ait un accès direct à notre compte en banque, c'est par le biais de cartes prépayées.
Oui, sachant que PayPal n'est pas reconnu par tous les sites. Par exemple, Amazon ne reconnaît pas PayPal. Donc,
alors justement, la sécurité des paiements en ligne, est-ce qu'elle est sûre à 100%? Moi, je fais partie de ceux qui s'interrogent, hein, qui parfois ont la trouille.
Bien sûr. Non, mais plus ça va, on pourrait dire... Plus ça va, plus les banques mettent des garde-fous et plus les organismes de cartes de crédit mettent des protections. 100%, c'est impossible, mais c'est comme dans la vraie vie, au moment où vous êtes dans un café, vous donnez votre carte au garçon qui va à la caisse. Qu'est-ce qui vous dit qu'il ne va pas copier vos 16 chiffres et puis le numéro complémentaire qui se trouve derrière? Après tout, et puis après, aller faire des emplettes. Mais dans la vraie vie, ce n'est pas aussi simple parce que s'il achète une tondeuse à gazon et qu'il habite à l'autre bout de la France, on va vite le retrouver. Mais, et sur Internet, c'est un peu pareil. Il y a des risques, c'est plutôt des ennuis. Il y a quand même beaucoup de protection et les banques surveillent énormément. Ils ont beaucoup de programmes de ce qu'on appelle d'intelligence artificielle qui surveillent que s'il y a un achat vraiment très, très étrange avec un gros montant, ils vous appellent tout de suite et ils peuvent le bloquer.
Ok, donc on peut dire que ce n'est pas à 100%, mais qu'on est quand même, on a de quoi être assuré.
Oui, mais il y a quelques bons réflexes à avoir. Par exemple, si on voit, il y a des grosses sociétés comme Sony, c'est pas la petite boîte qui vient d'être créée, Orange ou Yahoo, qui ont fait l'objet de piratage de leur base de données. C'est-à-dire que les gens qui avaient mis leurs coordonnées dessus se sont fait pirater. Il y a même eu les hôtels Marriott. Donc, il y a toujours, quand vous faites un achat, une petite case. Est-ce que vous voulez qu'on enregistre votre numéro de carte de crédit, vaut mieux pas cliquer dessus. Sauf si c'est vraiment une boîte vraiment extrêmement fiable, comme Amazon peut-être. Ou tu vois qu'il y a un passé de sécurité. Et puis, il y a des systèmes, je pense qu'on en parlera un petit peu plus tard, comme le code qui vient sur votre téléphone quand vous avez ça. Un pirate, il peut avoir votre numéro de carte bleue, il pourra rien pirater.
Je comprends. Oui, donc il y a quand même en fait des sécurités qui sont mises en place, qui font que en tant que consommateur, on peut être assez rassuré. Néanmoins, vous avez raison, et ça c'est un message à faire passer à nos auditeurs. Quand un site nous propose d'enregistrer finalement nos coordonnées bancaires parce qu'on est susceptible de refaire des achats sur ce site, bah il vaut mieux finalement retaper ces coordonnées bancaires à chaque fois plutôt que de se dire qu'on enregistre sa carte, parce qu'effectivement en cas de vol de données, finalement toutes nos coordonnées bancaires seront accessibles aux hackers, c'est ça?
Oui, ça, enfin je mettrais un bémol, disons sur un site qui est un peu jeune, qui n'est pas très connu. Maintenant, il y a aussi un autre système de protection que vous proposent les banques, c'est la e-carte bleue. Vous avez un petit logiciel, à chaque fois il vous génère un numéro de 16 chiffres qui est unique, que vous n'aurez qu'une seule fois. Donc il y a pas mal. Vous pouvez demander à votre banque, déjà vous demandez à votre banque d'avoir la protection par un code sur le téléphone mobile. Et puis, vous pouvez leur demander aussi le système e-carte bleue. Donc, à chaque fois, vous avez un nouveau code, il y a un petit logiciel, vous avez un chiffre, une séquence de 16 chiffres qui est unique à chaque achat, quoi.
En fait, le code, c'est quelque chose de rassurant. Hein. Voilà, le code qui vient sur le téléphone,
ça,
le
sûr.
Code sur... De, voilà,
À vrai dire, le plus gros risque, là où il faut vraiment que les auditeurs se méfient, c'est le message que vous recevez, soi-disant, de votre banque. Qui dit attention, il y a un problème sur votre compte, et là il vous demande de, là vous êtes redirigé vers un site qu'on appelle un site de phishing, c'est-à-dire un site qui imite le vrai, et là vous rentrez allègrement vos codes, etc. Et il y a un pirate qui récupère tout ça, et après il va faire ses achats sur Amazon et ailleurs. Donc il faut bien dire une chose, jamais, au grand jamais, votre banque ne vous demandera de taper votre numéro de carte bleue en ligne. Pour quelle raison il le ferait? Donc si vous recevez de toute façon, vous recevez un message de votre banque, appelez-les tout de suite.
D'accord, ok. Et on ne donne jamais ses coordonnées bancaires quand on nous les demande, sauf pour faire un achat en ligne sécurisé.
Voilà.
Comment est-ce qu'on peut vérifier que la page de paiement est bien sécurisée?
C'est très très simple, parce que toutes les adresses internet commencent, je pense que les gens l'ont vu, par HTTP. Et quand il y a HTTPS, un S en plus, et ça veut dire S comme sécurisé, et on voit un cadenas vert à gauche. Donc okay. Voilà, un cadenas vert fermé.
Très bien. On va se retrouver dans un instant parce qu'on a encore plein de questions à vous poser, évidemment. Les conseils, en tout cas, sont très concrets ce matin dans Nous Voilà Bien. Comme chaque samedi matin, hein, on vous facilite le quotidien et aujourd'hui, on vous permet de ne pas tomber dans les arnaques. Et puis, on parlera justement des huiles aussi avec Patricia Chiropoulos. Vous risquez d'être surpris sur les huiles alimentaires. Et puis après, on aura faim, alors on ira sur un petit pique-nique. À tout de suite.
Jusqu'à 10h sur RTL. Nous Voilà Bien. Flavie Flamand. Flavie Flamand sur RTL, Nous Voilà Bien.
Nous sommes ensemble jusqu'à 10h. Dans vos placards, dans votre cuisine, vous avez forcément de l'huile. Et vous vous dites, ah, moi j'ai de l'huile d'olive, c'est forcément la meilleure, elle est bonne pour la santé. Eh bien vous risquez d'être surpris, non pas qu'elle soit mauvaise, mais est-ce que c'est vraiment la meilleure des huiles? Patricia Chiropoulos nous le dira dans un instant. Et puis alors justement, avec nos huiles, on peut faire plein de choses et puis on peut préparer un bon pique-nique. C'est Sonia Esguignan qui nous donnera des recettes. Mais pour l'heure, allez, on se fait des petits achats en ligne.
Oh, that ain't working. That's the way you do it. Get your money for nothing. Get your chicks for free.
Avec Daniel Ishbia, qui est journaliste spécialiste des nouvelles technologies. Vous nous avez déjà donné plein de conseils très précieux, Daniel Ishbia, pour faire nos achats sur Internet. On a repéré une super affaire sur un site via notre smartphone pendant qu'on attend, je sais pas, le bus ou dans la salle d'attente chez notre médecin. Est-ce qu'il y a un risque à se connecter sur un Wi-Fi public pour passer une commande?
Totalement. Le Wi-Fi, c'est le maillon faible de la connexion Internet. Pour rendre la chose simple, je vais donner un exemple très très simple. Imaginons que je suis un pirate et j'habite à côté d'un cabinet médical. Et dans le cabinet médical, il y a un accès Wi-Fi. Je vais une fois faire une consultation, j'ai le mot de passe du Wi-Fi. C'est fini. Et après,
on accède à tout.
Donc, on accède à tout. Donc, le Wi-Fi, et même si j'ai pas ce mot de passe, la plupart de temps, les mots de passe des cafés, c'est le nom du café ou c'est le nom d'une serveuse, Jeannette. Donc, c'est très facile d'espionner le Wi-Fi. Vaut mieux pas faire des choses trop liées à ses finances dans un cybercafé ou là où il y a du Wi-Fi.
Ok. Et via la 3G ou la 4G, c'est la même chose ou pas?
C'est déjà beaucoup plus protégé. Disons que pareil, c'est pas totalement protégé, mais c'est tellement plus compliqué à décoder qu'on peut penser que peu de gens ont le matériel pour décoder ça.
Ok. Quels sont nos recours si on se fait pirater notre carte? La banque, elle rembourse les sommes volées?
Oui, tout à fait.
Il faut justifier tout ça.
Elle rembourse. Ça dépend, bien sûr. Si on a fait un achat sur un site et qu'on s'est fait arnaquer, normalement, ça dépend du type d'assurance qu'on a, mais dans la plupart des assurances, on se fait rembourser. Maintenant, s'ils se rendent compte que, je sais pas, c'est le gamin qui a été acheté pour 1000 euros de jeux vidéo, ils vont peut-être pas le rembourser, quoi.
Ouais. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, il faut vraiment justifier du vol des coordonnées bancaires. Maintenant, si c'est intrafamilial et que c'est un ado qui a envie de faire des jeux en ligne, là, évidemment, ce sera plus compliqué à prouver. Merci beaucoup pour tous ces conseils, Daniel Ijbia. Merci vraiment d'avoir passé ce moment avec nous ce matin dans Nous Voilà Bien. Grâce à vous, maintenant, on sait comment faire. Et puis, on guettera ce petit cadenas vert dont vous nous avez parlé sur les sites. Je rappelle votre livre, parce que, évidemment, là, c'est qu'un petit extrait. C'est le guide d'autodéfense sur Internet aux éditions First. Prenez soin de vous, Daniel. Merci d'avoir été avec nous ce matin.
Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand.
Mets de l'huile. Mets de l'huile. Mets de l'huile.
Ah, l'huile. On va parler de l'huile alimentaire aujourd'hui avec Patricia Chéropoulos. Bonjour Patricia, merci d'être dans Nous voilà bien.
Bonjour.
Vous êtes journaliste à 60 millions de consommateurs en charge de la rubrique alimentation. À propos d'huile, tiens d'ailleurs, avant de rentrer dans le détail, il en existe beaucoup de variétés ?
Oh là, oui, beaucoup. Vous voyez bien, en rayon des supermarchés, on a des quantités d'huile, tournesol, colza, olive, sésame, lin. Enfin voilà, c'est on a vrai. Tout ce qu'on veut. Hein.
D'accord, ok. Donc en fait, on a une multitude d'huiles. Maintenant, il faut s'y retrouver, évidemment. L'huile d'olive, elle a toujours été présentée comme l'huile star. Je dirais que c'est un peu le summum. On a l'impression qu'en prenant de l'huile d'olive, on fait même attention à sa santé. Elle est vraiment supérieure aux autres ?
Oui et non. Alors c'est vrai qu'elle est supérieure aux autres en termes de goût. Bien sûr, ça dépend des goûts. Elle est super bonne. En fait, c'est un peu comme les terroirs, comme le vin. On va prendre une origine. Donc ça, c'est vrai qu'elle est supérieure aux autres pour cela. En revanche, pour la santé, on va dire qu'elle n'est pas suffisante. Elle est bien. Protège effectivement, elle limite le mauvais cholestérol, le fameux LDL. Mais elle n'est pas bonne pour tout. Enfin voilà, elle ne va pas à elle seule suffire à avoir tous les bénéfices tentés qu'on attend d'une huile.
Ok, donc il y a certaines huiles qui sont meilleures pour la santé que d'autres et l'huile d'olive n'en fait pas partie.
Elle est bonne, hein, elle est bonne pour
mais
la
voilà,
santé.
Mais c'est pas la meilleure.
Mais ce n'est pas la meilleure et surtout, c'est qu'on ne peut pas ne prendre que de l'huile d'olive, en fait, c'est ça.
Ok.
Et il faut pouvoir la mélanger à d'autres.
Alors, on y reviendra justement, ces fameuses huiles combinées. Mais toutes les huiles, elles sont riches en oméga-3 ou pas?
Alors non, donc les fameux oméga-3, les acides gras essentiels que nous on n'arrive pas, notre organisme n'arrive pas à fabriquer. Non, toutes les huiles ne sont pas riches en oméga-3. Hein, donc certaines. Alors en gros, les championnes d'oméga-3, ce sont les huiles de colza, de lin, de noix et de soja. En gros, c'est les quatre qu'on peut trouver assez facilement. Mais d'autres, comme par exemple l'huile de tournesol, n'en contient quasiment pas. Et l'huile d'olive non plus d'ailleurs, pas beaucoup.
Et il y a une différence entre les huiles de cuisson et les huiles d'assaisonnement. Moi, je fais tout à l'huile d'olive. Je cuis à l'huile d'olive, à l'huile d'olive. Alors, je n'ai pas forcément les mêmes pour ça, mais...
C'est ça. Alors, c'est vrai que l'huile d'olive, et surtout l'huile d'olive vierge extra, c'est la meilleure. Et c'est vrai qu'elle supporte une température de cuisson qui peut aller jusqu'à 190, voire 200 degrés. Donc, c'est vrai qu'on peut faire beaucoup de choses avec l'huile d'olive. Hein. Mais cela étant, les huiles de cuisson, ce sont les moins fragiles. Donc, c'est l'huile d'arachide, l'huile de tournesol. Ce sont des huiles qui sont pas très riches en oméga-3, justement. En revanche, les huiles d'assaisonnement, c'est justement les huiles de noix, de lin. Elles sont riches en oméga-3 et ces acides gras oméga-3 sont très fragiles. C'est pour ça qu'on ne peut pas les utiliser en cuisson.
Mais alors, qu'est-ce qui se passe, justement, si j'utilise une huile d'assaisonnement pour cuire des aliments, ce que je fais avec mon huile d'olive? Alors, j'ai bien compris qu'avec l'huile d'olive, ce n'est pas un souci. Mais si je me mets à cuire avec de l'huile de colza ou de l'huile de lin, qu'est-ce qui va se passer?
Alors, on ne va pas être intoxiqué tout de suite. Hein, mais ça, on peut quand même se rassurer. Mais on ne va pas le faire non plus tous les jours. C'est vrai que déjà, elles vont perdre leurs atouts nutritionnels parce que comme elles sont très fragiles, et ces fameux donc, oméga-3 vont être un peu détruits. Donc, déjà, elles ne vont plus avoir ces bénéfices santé. Et en plus, elles peuvent aussi former sous l'effet de la chaleur des composés qui peuvent être toxiques, en tout cas les fameux acides gras trans, par exemple, dont il ne faut pas abuser. Voilà, donc elles ne sont
à la fois... Ça fait quoi, alors, à outrance?
Ah bah, à outrance, donc ça peut, on dit que ça peut oxyder les cellules, ça peut favoriser différentes maladies. Voilà. Donc évidemment, donc si on en prend tous les jours, en plus leur goût peut changer également sous l'effet de la chaleur. Elles peuvent devenir avoir un goût rance, un goût et souvent, de toute façon, il y a un signe hein, qu'on peut voir, c'est lorsqu'une petite fumée, enfin légère fumée, peut se dégager lorsque vous faites chauffer une huile qui n'est pas faite pour cela. C'est un signe. Ça veut dire qu'elle commence à se dégrader. Donc, faut okay. éviter qu'on fait chauffer une huile qui ait ce dégagement de fumée.
D'accord, ok. Bah, dis donc, on en apprend voilà. plein aujourd'hui. Là. On va se retrouver dans un instant parce que moi, j'ai des questions à vous poser sur les huiles combinées. Hein. Et puis, vous avez analysé 33 produits quand même. Donc, à un moment donné, nous, on veut savoir s'il y a eu des surprises et si les huiles bio sont vraiment les meilleures huiles. On va se retrouver hein, pour la suite de Nous Voilà Bien, Patricia Chiropoulos. Vous allez nous dire quelle est la best des huiles. Et puis, on parlera pique-nique aussi avec Sonia Esgugnan. Ça me donne faim, tout ça. À tout de suite.
Voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand.
RTL. Passez un bon week-end sur RTL.
RTL, toujours avec vous. Flavie Flamand sur RTL, Nous Voilà Bien.
On apprend plein de choses ce matin, c'est ça qui est super. Et en plus, dans un instant, il y a Sonia Esgugnan qui va nous montrer que le pique-nique, c'est pas simplement du saucisson et trois carottes, quoi. On peut faire des choses super pour aller pique-niquer. Et puis, comme il fait beau, les oiseaux chantent, qu'on peut se retrouver en toute sécurité, bien évidemment, et que les parcs vont commencer à s'ouvrir. Vive le pique-nique, ce sera un petit peu plus tard. Donc, avec Sonia Esgugnan. Mais pour l'heure, on parle des huiles avec Patricia Chiropoulos.
Je vous propose une recette facile, économique et pratique. Succulente, surtout, à réaliser avec notre ingrédient du jour... L'huile. Commencez par verser dans un saladier environ un demi-litre d'huile. Versez énergiquement de façon à réveiller les molécules grasses. Dans un bol à soupe classique, versez environ un quart de litre d'huile que vous allez mélanger avec 2 cuillères à soupe d'huile.
Eh bien, moi, je ne vais pas confier ma cuisine à Valérie Lemercier. Mais en tout cas, l'huile, on en parle. C'est le dada de Patricia Chiropoulos, hein, puisque vous avez mené l'enquête à 60 millions de consommateurs sur nos huiles alimentaires. On a déjà appris il y a un instant qu'il y a vraiment des huiles de cuisson et des huiles d'assaisonnement et qu'il ne faut pas forcément utiliser des huiles d'assaisonnement pour cuire des aliments parce que ça peut finir à terme à être mauvais pour la santé. Et puis, ça peut de toute façon en plus détruire ces fameuses molécules dont nous parlait Valérie Lemercier. Parlons des huiles combinées. En fait, c'est quoi déjà une huile combinée et est-ce que c'est une bonne option du coup ?
Alors oui, les huiles combinées, donc c'est vrai qu'elles ont beaucoup de succès auprès des consommateurs. Hein. On peut le comprendre puisqu'en fait, elles vont éviter de réfléchir quelque part.
Oui, c'est un mélange d'huile, quoi.
Voilà, c'est un mélange de 3 ou 4 huiles. En gros, on a donc l'huile de colza, l'huile de tournesol, de l'huile de lin et au moins ça, et de quelquefois aussi de l'huile d'olive. Donc, elles permettent d'apporter et des oméga 6 et des oméga 3, voilà, et de l'acide oléique. Donc, elles sont un peu un mélange et ça évite d'avoir 2 ou 3 bouteilles dans son placard, en fait. En gros, c'est ça. Donc, on ne se pose pas de questions. On sait qu'a priori, elles sont bonnes pour la santé. Elles apportent ce qu'il faut.
Est-ce que c'est une bonne option, justement?
Oui et non. Alors, moi, je dirais que c'est pas mal aussi, c'est de répartir au fil de la journée au moins 2 ou 3 huiles que vous avez. Par exemple, de l'huile d'olive ou de l'huile de noix ou de lin pour des assaisonnements. On va prendre de l'huile de tournesol, pourquoi pas, pour faire des cuissons douces. Donc, c'est bien aussi de répartir. Et surtout, c'est au niveau du goût. C'est vrai que ces huiles combinées ont rarement beaucoup de goût. Donc, si on cherche des choses un peu plus fortes, un peu plus personnalisées, on va peut-être plutôt avoir 2-3 huiles dans son placard, voire au réfrigérateur, hein, puisque c'est pas mal de les garder au réfrigérateur, surtout les fragiles. Bah, comme les fameuses huiles justement riches en oméga 3, comme huile de noix ou huile de lin, elles sont très fragiles à la lumière, à la chaleur. Donc, on peut les garder au frais. Et on les sort un petit peu avant parce qu'elles risquent d'être un petit peu figées.
Solidifiées, oui.
Mais en tout cas, ça ne les altère pas, non.
Ah bah alors ça, je ne savais pas du tout. On apprend vraiment plein de trucs. Pour la friture, il nous faut une huile particulière, c'est l'huile de tournesol, non ? Ou d'arachide ?
L'huile d'arachide, alors déjà c'est plutôt les huiles raffinées. Pourquoi ? Parce qu'elles sont moins fragiles, elles supportent des températures qui vont jusqu'à 220 degrés. Donc celle-ci, donc l'huile de friture, on va vraiment conseiller des huiles qui sont faites pour ça. Donc l'huile d'arachide de tournesol raffinée, effectivement. Parfois, l'huile d'olive vierge extra, elle supporte aussi très bien la chaleur. Donc pourquoi pas ? Bon, des frites à l'huile d'olive, ça se discute, hein, mais ça dépend des goûts. Voilà.
Okay.
Après... Ouais. Oui, juste une précision, hein, mais bon, pour les huiles de friture, il faut quand même être, ne pas les utiliser trop souvent. Voilà, c'est ça, 5-6 fois maximum. Hein.
Voilà. 5-6 fois, pas... quoi. Ah oui, oui, c'est ça. Je change mon huile. Je ne sais pas, moi, je ne change jamais de frites. D'accord.
On ne la change pas à chaque fois, mais on les change toutes les 5-6 fritures à peu près.
Ok, très bien. Vous avez analysé 33 produits dans 60 millions de consommateurs actuellement en kiosque. Il y a eu des surprises alors ?
Oui, alors pas forcément bonnes. Enfin, bon, il y en a des bonnes quand même. En gros, on a eu plutôt des déceptions du côté des huiles d'olive et des bonnes surprises du côté des huiles de tournesol, voire des huiles combinées. Vous voyez, donc on alors, est... voilà. Ouais.
Racontez-nous alors, les huiles d'olive, qu'est-ce que vous avez découvert ?
Alors, bah, les huiles d'olive, sur les 15 huiles d'olive, en gros, un tiers ne sont pas dignes d'être des huiles d'olive vierges extra, puisqu'on a pris les huiles les plus d'olive, le summum de l'huile d'olive, hein, qui est la fameuse vierge extra. Mais pour cela, il faut qu'elles répondent à des qualités organoleptiques. Or, plusieurs d'entre elles, dans notre essai, soit sont trop, n'ont pas un taux d'acidité qui n'est pas bon, soit on a un arrière-goût de rance ou un arrière-goût aussi de ce qu'on appelle de chômé, c'est ce qu'on appelle en termes techniques. Ça veut dire qu'il y a le stockage des olives avant la pression qui a été trop long. Donc tout ça pour dire qu'elles ont été déclassées. Donc 5 huiles ont été déclassées parce qu'elles n'avaient pas le goût optimal qu'on attend d'une huile d'olive extra vierge.
Déjà. Ok, d'accord.
Alors voilà, elles avaient aussi d'autres petits défauts comme des résidus de plastifiant, mais bon, on va pas, c'était très très léger. Mais vraiment, le principal reproche, c'est là où on a été déçus. D'autant plus que certaines huiles sont assez coûteuses, hein, parmi celles qui ont été déclassées et qui justement ne méritaient pas cette appellation extra vierge ou vierge extra.
Est-ce qu'elles étaient bio ?
Eh bien, oui, et là aussi, c'est un peu une déception.
Oh là là,
c'est plusieurs d'entre elles, dont c'est déclassé, là, en fin de tableau, elles sont bio. Alors, ce n'est pas une généralité, on peut être bio et très bonne, mais il s'avère que dans notre essai, ce qu'on a eu sur les trois catégories de familles qu'on a étudiées, donc olives, tournesol et combinées des bio, et elles ne sont pas super bien classées. Il y a un process ou un contrôle qui n'a pas été bien fait.
Donc il faut se méfier et donc il faut aller voir le classement des 60 millions de consommateurs. On terminera sur le bio. Le bio, ça veut dire forcément de qualité ou pas ? Pas forcément, là on vient de vous entendre
et
sur les huiles d'olive.
En tout cas sur les huiles d'olive, non, c'est absolument pas une garantie de qualité. Nous n'avons pas testé le goût en soi, le goût du consommateur. Hein. Mais en tout cas, d'un point de vue purement qualitatif, dans ce qu'on demande d'un point de vue réglementaire, hein, d'une huile d'olive, c'est pas forcément ce qu'on attend.
Eh bien merci beaucoup. Pour plus de détails, évidemment, on se tourne vers 60 millions de consommateurs qu'on peut retrouver également sur Internet, hein, sur votre site. Merci Patricia Chéropoulos d'avoir été avec nous. Maintenant qu'on en apprend plus sur les huiles, bah, écoutez, on va aller faire un petit déjeuner, hein, avec Sonia Esguignan, puisqu'on va aller pique-niquer. Vous venez avec nous, Patricia ?
Oui, avec plaisir.
Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
Tous les deux ont déjeuné sur l'herbe et moi j'en avais fumé un peu à travers mes paupières entrouvertes.
C'est trop joli. Nougaro qui nous parle du déjeuner sur l'herbe. Alors là, on va aller faire un déjeuner sur l'herbe, mais habillé quand même, hein, avec Sonia Esguignan. Bonjour Sonia.
Bonjour Flavie.
Soyez la bienvenue, merci d'être avec nous. Sonia, vous êtes cuisinière, auteure, journaliste. Les parcs s'ouvrent ou vont s'ouvrir. Les pique-niques post-confinement se multiplient partout en France. Ça, c'est pas vraiment une surprise. C'est une sorte de tradition, en fait, le pique-nique.
Oui, dès les beaux jours, là, ça nous fait prendre l'air. Et puis, c'est aussi une façon de casser un petit peu les codes d'un repas un petit peu figé. Donc là, c'est génial. On se permet des petites choses, plein de liberté en pique-nique.
Quand on se balade un peu sur les réseaux sociaux et tout, on se rend compte que c'est tendance, le pique-nique. C'est vraiment comme les apéros un peu dînatoires dont on a déjà parlé dans cette émission, c'est-à-dire l'idée comme ça d'aller picorer, de se prélasser tout en mangeant, un peu léger, et puis même à thème, je dirais. Ça devient une sorte d'art du déjeuner sur l'herbe, non ?
Ça peut s'improviser. Ce qui est intéressant avec le pique-nique, c'est que ça peut s'improviser un petit peu partout, aussi bien à la campagne, si on a des jolis points de vue, au bord de l'eau, etc.
Et puis on peut voyager, parce que je dirais dans les pique-niques à thème, on peut partir en Italie, en Grèce, à la campagne,
ah ben là,
on peut faire un truc plus citadin. Hein,
le sujet est vaste. En fait, ce que j'aime bien, c'est qu'on a souvent, autour des pique-niques, un élément de base qu'on retrouve dans beaucoup d'ailleurs de pique-niques à thème, c'est le pain. On peut retrouver le pain plein de formes différentes. Ça peut être la bonne vieille baguette, mais aussi un bagel, de la fougasse, des wraps, du pain bagna, pourquoi pas des petits pains surprises, des mini sandwichs avec du pain de mie, des pitas. En fait, on voit que le pain en fait va être un support assez intéressant pour le pique-nique. Et après, on peut le décliner alors soit par thématique ou alors avec des produits. Soit on veut cuisiner ou alors on achète des petites choses pour faire des trampouillettes ou autre.
Eh bien, des trampouillettes, on va en parler dans un instant, justement. Vous restez avec nous, hein, Sonia Esguillian, parce que c'est vrai qu'on avait tendance à se dire que le pique-nique, avant, c'était un peu chips, sauciflard, assiette en carton. Mais non, on peut faire plein de choses super. Et vous allez tout nous raconter dans un instant. À tout de suite.
Jusqu'à 10h sur RTL.
Nous voilà bien. Flavie Flamand. Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand.
Vous avez vu ce temps, voilà, on est samedi matin, qu'est-ce qu'on va faire ce midi? On va aller pique-niquer, en plus c'est tellement agréable à préparer un pique-nique. Et c'est Sonia Esguillian, cuisinière, auteure et journaliste, qui nous donne plein de conseils, parce qu'effectivement, on l'a dit, hein, Sonia Esguillian, le pique-nique c'est pas que du sauciflard, une botte de radis, et puis des assiettes en carton. On peut faire beaucoup mieux, on peut faire beaucoup plus joli et plus écolo.
Pour un pique-nique parfait,
il faut de la géniole, une tarte à la mougnarde et un peu de pinouille. Pour un pique-nique parfait, il faut de la géniole.
Bon, il faut pas que de la géniole, hein, Sonia Esguillian. Le pique-nique, c'est pas que de la géniole, du saucisson, une botte de radis et des assiettes en carton, quoi. On peut faire beaucoup mieux.
Alors, ça peut être un très bon saucisson et des très bons radis, c'est pas le problème.
Ça, je suis d'accord.
Alors, les assiettes en carton, niette, non et non. Pourquoi? Parce qu'on a plein de solutions. On n'est pas obligé d'avoir chez soi plein de matériel pour le pique-nique, avec les jolies assiettes en mélamine ou en autre, etc. On peut trouver maintenant très facilement au supermarché des assiettes biodégradables en fibre de maïs ou autre.
Mais on
peut aussi trouver dans ces placards des astuces pour emporter des plats en pique-nique. Par exemple, moi je fais souvent des pique-niques bocaux. Donc je récupère des bocaux de différentes tailles, et dans ces bocaux, quand ils sont pas très grands, on peut mettre une salade de pommes de terre, on peut mettre des petits bâtonnets de légumes qu'on va déguster avec du fromage blanc, etc. Donc on peut trouver en fait dans ces placards et ces frigos des contenants qui justement éviteront trop de gaspillage. Et justement, très important, puisque je parle de contenants, on prévoit toujours ce qu'on va faire des contenants après, c'est-à-dire que quand on conçoit son pique-nique, on n'oublie pas de prendre évidemment le tire-bouchon pour la bouteille, mais aussi un sac poubelle pour déjà, si on est dans un lieu où il n'y a pas de poubelle, au moins pouvoir jeter les poubelles, et un petit sac pour apporter les choses qu'on lavera ensuite à la maison. Mais ça, c'est quand même important. On prend du plaisir, mais
ça se prépare la veille. On l'aura compris. C'est ça aussi qui est génial dans le pique-nique. En dehors du fait qu'effectivement il faut prévoir le tire-bouchon, parce que sinon on n'est pas bien parti, qu'il faut prévoir le sac poubelle et le sac des choses à laver. L'avantage, c'est que en fait on peut tout préparer la veille pour le lendemain.
Oui, alors il y a des petites choses à faire, des petits réflexes. Par exemple, si on a des salades, c'est top de les préparer dans les contenants, mais pas forcément de mettre la vinaigrette, parce que souvent, alors il y a des choses, ça gêne pas tellement. Par exemple, si c'est pommes de terre ou betteraves, c'est pas très gênant, mais en règle générale, c'est quand même meilleur de mettre la vinaigrette je sais pas moi, une demi-heure avant de manger, plutôt que de la mettre un petit peu trop longtemps à l'avance.
Ça va cuire à moitié avant.
Oui, donc ouais, c'est top. On la met dans une petite bouteille, et j'utilise aussi beaucoup les petits pots de yaourt en verre avec un petit couvercle en plastique. C'est très pratique pour emporter tout ça en pique-nique, et en fait on le met au dernier moment.
Très bien. Pour les enfants, on prépare un truc spécial qui va faire que ça ne va pas dégouliner partout ?
Oui, parce que quand même, l'idée, c'est de s'amuser. Donc, on ne se prend pas la tête avec les choses qui vont couler sur les habits, qui vont créer des disputes. On trouve des choses amusantes à manger avec, comme je le disais tout à l'heure, des petites trempettes, des dés de jambon, des petits grissini, des mini-sandwichs, pourquoi pas, qui ont des formes amusantes. Surtout que la veille, les enfants peuvent aider à faire les sandwichs et les différentes préparations. Donc, le pique-nique, c'est vraiment un moment de détente. Donc, on oublie de se stresser pour... les miettes ou les éventuelles petites sauces qui pourraient tomber sur les habits. Voilà.
Comment est-ce que je respecte la chaîne du froid? Vous savez, la mayonnaise et tout, ça résiste pas trop ça, à la chaleur.
Alors, en fait, il faut vraiment éviter tout ce qui est cru. Donc, en gros, la mayonnaise, on évite. Il y a plein d'astuces. Hein. Il y a on peut faire une mayonnaise. En fait, moi, je fais des mayonnaises à base de fromage blanc. On voit presque pas la différence. On prend du fromage blanc, on met de la moutarde. Je mets même des petits cornichons que j'ai coupés en tout petits dés, etc. Et je monte je bats cette sauce qui est assez épaisse. Si on veut absolument des œufs, eh bien, on les fait cuire dur. On les hache et on les mélange à la sauce. Et là, on prend beaucoup moins de risques. Évidemment, on consomme pas non plus de viande crue ou de poisson cru parce que...
Oui, c'est pas en fait un technique sushi, quoi.
Oui, alors on essaye de... Alors, les petites astuces, c'est qu'on peut prendre, par exemple, des demi-bouteilles d'eau qu'on remplit à moitié et qu'on met dans le congélateur. Moi, je mets aussi surtout des petites limonades que je fais maison, juste du jus de citron avec quelques feuilles de verveine. On congèle ça et en fait, quand on part avec le pique-nique, on peut mettre ça dans un sac même classique. On n'est même pas obligé d'avoir une glacière et quand on arrive, l'eau a presque complètement, décongelé et, ouais. Et en fait, on a de l'eau bien fraîche et le pique-nique est resté à bonne température.
Allez, une petite recette pour la route. Qu'est-ce que vous nous suggérez justement de bon à préparer pour aujourd'hui? Une recette.
Alors, une seule recette, le pain bagnat. Alors, évidemment, tout le monde va me tomber dessus du côté de Nice. C'est pas un vrai pain bagnat, mais c'est pas grave. C'est juste pour le bonheur d'avoir un pain bagnat. Alors, je vous raconte les grandes lignes, mais pour vous faire plaisir, je vous ai fait une petite vidéo que je mets sur mon compte Instagram. Comme ça, vous voyez tous les détails. Comme ça, si j'oublie un truc, vous avez tous les détails sur le compte Instagram. En fait...
Ça marche.
Il y a deux solutions. On a du temps, pendant le confinement, on est devenu incollable en pain, on fait des sortes de petites miches de pain, des gros pains ronds qu'on va couper. Si on n'a pas, on achète des pains à burger. Ça, c'est top. Il y en a dans des bonnes boulangeries. Alors, si possible, on achète quand même un pain à burger plutôt fait maison dans la boulangerie, quoi, pas le pain sous plastique. On va couper le pain, on le décalote, on enlève un petit peu de la mie et à l'intérieur, là, on se fait plaisir. On va mettre des petits dés de courgettes, des tomates, du poivron. Moi, je mets du thon, évidemment. Je vais rajouter des petits œufs de caille qu'on fait cuire dur. D'abord, c'est très mignon dans la recette. Les radis, je prends une petite mandoline, je coupe des petits pétales de radis. Je rajoute plein d'herbes aromatiques. On peut mettre des filets d'anchois si on a envie. Et en fait, comme on va mettre toute cette garniture dans le pain, le jus de cette garniture va imbiber le pain. C'est vraiment très, très bon. C'est fondant. Il y a plein de goûts. Si on met plein d'herbes aromatiques, on a beaucoup, beaucoup de goûts. Pour les enfants, on fait assez sobre. Hein. On essaye de faire petites tomates, des œufs de caille et quelques petits légumes. Et vraiment, c'est très joli. C'est, roboratif. Et c'est très, très savoureux.
Et vous savez quoi, moi je vais m'y coller dès ce week-end et je vous dirai la prochaine fois que je vous verrai, Sonia Esquivel.
Je veux voir des photos.
Mais vous aurez les photos. Alors, vous parliez des œufs de caille. Tiens, bah, votre livre, L'œuf, recettes et variétés gourmandes, on le retrouve aux éditions Les Cuisinières. Et puis votre page Instagram à votre nom, Sonia Esguillan, pour retrouver effectivement les recettes du pique-nique. Je vous embrasse, Sonia. Passez un très bon week-end.
À bientôt.
Et à très bientôt sur RTL. Au revoir, Sonia.
Au revoir.
Des bisous. Bah oui, c'est la fin de Nous Voilà Bien. En attendant de nous retrouver dans une semaine, vous pouvez nous réécouter en replay sur RTL.fr et en podcast sur les plateformes dédiées. Si vous n'avez pas eu le temps de noter les recettes, elles vous attendent aussi sur notre page Facebook de l'émission. On se retrouve nous lundi à 14h30 pour En effet pour s'entendre. C'est votre magazine du partage et de la réflexion tous les jours sur RTL. Moi, je vous souhaite un excellent week-end à l'écoute de la première radio de France. Soyez bien prudents, hein. C'est pas encore complètement terminé notre histoire. Et prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Bon week-end.